un podcast France Culture.
Deuxième jour de notre série sur l'économie de la beauté. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un secteur qui compte en France des géants comme L'Oréal et LVMH et des centaines de PME, les cosmétiques. Une industrie en pleine croissance et qui ne cesse d'innover, du maquillage pour hommes à la dermocosmétique, en passant par la clean beauty. Comment expliquer l'excellence de la filière française? Comment a-t-elle réussi à s'imposer dans le monde et peut-elle se maintenir sur la plus haute marche du podium? Pour en parler, nous avons invité Béatrice Collin, professeure de stratégie à l'ESCP Business School, autrice de plusieurs ouvrages sur L'Oréal, dont celui-ci, L'Oréal, la beauté de la stratégie, avec Jean-François Delplanque, paru chez Duno en 2015. Également avec nous en duplex de Grenoble, Anne Dalmasso, professeure d'histoire contemporaine à l'université Grenoble-Alpes, membre du LARA, le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, autrice de cet article « Acteurs et territoires, l'écosystème industriel des cosmétiques français au XXe siècle » avec Quentin Jagosinski, publié dans la revue Entreprise et Histoire l'an dernier. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancey, Anouk Milliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender. Bonjour Anne Dalmasso et Béatrice Collin.
Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors la Covid avait été un choc pour la filière cosmétique française, mais celle-ci a su se relever et elle affiche désormais une santé presque insolente, Béatrice Collin.
Oui, c'est un secteur qui se porte extrêmement bien. Alors effectivement, il y a une baisse, vraiment des chiffres négatifs au niveau du secteur avec la Covid, mais ça n'a pas duré longtemps et aujourd'hui, on est vraiment reparti sur des chiffres extrêmement positifs. On a toujours un secteur qui est évidemment en croissance et en croissance au-delà, évidemment, de la croissance du PIB.
Et c'est un secteur qui, aujourd'hui, fait partie de ces secteurs qui contribuent le plus à la balance commerciale française, Béatrice Collin ?
Ah, c'est très clair, puisqu'en fait, c'est la deuxième industrie contributrice à la balance commerciale française après l'aéronautique.
Et avant les vins et spiritueux.
Et avant les vins et spiritueux, exactement. Et
ce qui fait la croissance de ce secteur, c'est vraiment l'international. C'est là que la filière française réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires.
Oui, aujourd'hui, on est quand même dans un marché extrêmement mondialisé, où en fait, les entreprises françaises ont des positions mondiales très très fortes et très exemplaires au niveau de leur développement. Donc le marché mondial, c'est évidemment un marché essentiel pour ces entreprises. Ceci dit, on s'aperçoit qu'on a quand même toujours en fait de la croissance, que ce soit sur les marchés européens ou nord-américains. Donc en fait, c'est un déploiement qui est très équilibré sur le plan mondial.
Quand on parle de cosmétiques, Béatrice Collin, de quels produits parle-t-on exactement ?
Alors quand on parle de cosmétiques, en fait, plutôt que de parler de produits, en fait, on va parler plutôt de segments de marché. C'est un petit peu aussi comme ça qu'on définit les entreprises, qu'on peut classifier les entreprises, puisque vous avez à la fois, on va dire les produits de luxe, donc on va retrouver les parfums, cosmétiques, crèmes, maquillage. On a les produits de grande consommation. On va trouver l'ensemble des produits capillaires, etc. L'ensemble des produits de soins de la peau et de maquillage et des cheveux. On a les produits professionnels et on a la dermocosmétologie, donc on va trouver nous en France au niveau de la parapharmacie.
Dermocosmétologie, on en parlera, c'est oui. Ce mélange de cosmétiques et de santé, c'est un segment qui fonctionne très bien aujourd'hui. Quand on parle donc de cette filière française des cosmétiques, qu'est-ce qu'il faut expliquer ? Je commençais à le dire en introduction, c'est qu'il y a d'un côté des géants, des très grandes entreprises dont on va retracer l'histoire, et puis toute une série de PME et de TPE, Béatrice Collin.
Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est assez remarquable et assez unique. C'est-à-dire, en fait, on a à la fois la figure de proue avec L'Oréal, donc, qui est le leader mondial du secteur depuis 40 ans, donc ce qui est quand même absolument, je dirais, très, très unique. Et en même temps, on a énormément de TPE, de PME et de TI dans le secteur. Et à la fois qu'on va retrouver sur les produits eux-mêmes, mais c'est aussi un secteur où, en fait, on a un vrai écosystème avec les entreprises de conditionnement, d'emballage, de production des jus pour les parfums. Donc en fait, on a un secteur autour de 3000 entreprises et de tailles très diverses.
On peut dire que l'ensemble de la chaîne de valeur de ce secteur est présente sur le territoire français ?
Ah oui. Ah oui, oui. C'est un ensemble de la chaîne de valeur.
La conception, l'innovation, la fabrication.
Ah oui, oui. Complètement. Et aussi la recherche et l'innovation, ce qui est quand même très important.
Qui est un aspect très important. Alors, vous l'avez dit, L'Oréal, c'est le numéro 1 mondial des cosmétiques depuis 40 ans. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui continue à progresser et qui progresse même plus vite que le marché, Béatrice Collin.
Oui, beaucoup plus vite, hein, puisque L'Oréal affiche encore et depuis un certain nombre d'années en fait des croissances à deux chiffres, hein, donc toujours supérieures à la croissance du marché mondial. Et donc c'est vrai que L'Oréal est leader avec 15% en gros. Enfin, on estime à 15% des parts de marché mondial.
Et les deux autres places sur le podium sont occupées par des entreprises américaines, Unilever et Procter & Gamble, mais qui elles accusent un peu le coup, Béatrice Collin.
Oui, et puis je dirais que bon. Unilever, Procter & Gamble, en fait, sont vraiment positionnés sur le marché de la grande consommation. Et uniquement, même si à certains moments, elles ont pu avoir d'autres marques, mais elles sont vraiment sur le marché de la grande consommation. L'Oréal, et c'est ce qui lui permet aussi d'avoir cette croissance, et puis un équilibre aussi au niveau de sa stratégie, c'est qu'elle est située sur l'ensemble des segments dont on a parlé.
Oui, parce qu'il faut aussi évoquer le deuxième géant français du secteur des cosmétiques, c'est LVMH. Et alors effectivement, ce n'est pas le même positionnement que L'Oréal, Béatrice Collin.
Non, puisque LVMH est uniquement présent sur le segment du luxe. Et en fait, c'est le développement évidemment de la parfumerie cosmétologie avec les maisons de haute couture qui appartiennent au groupe ou de grands parfumeurs comme Guerlain.
Alors comment la filière cosmétique française est-elle devenue ainsi leader sur ce marché des cosmétiques ? Peut-être qu'il faut d'abord expliquer, Anne Dalmasso, qu'il s'agit d'une industrie ancienne. On peut dire qu'elle a plus de 2 siècles, cette industrie des cosmétiques ?
Oui, on peut même rappeler que les pratiques de soins de la peau, d'embellissement, de modification de l'apparence sont probablement aussi vieilles que l'humanité, ou en tout cas depuis qu'on a des traces des activités humaines, on trouve des traces de pratiques qui relèvent de ce souci à la fois de s'entretenir, de se soigner et de se modifier. Mais effectivement, si on veut se restreindre à la dimension industrielle, on voit l'industrie des cosmétiques finalement suivre toutes les transformations de l'industrie en général, hein, depuis des pratiques artisanales qu'on va retrouver principalement en milieu urbain, principalement dans les très grandes villes, autour des apothicaires, mais aussi, il faut le rappeler pour la parfumerie, dans un lien très étroit avec la ganterie, puisque dans la période d'Ancien Régime, ce sont des gantiers parfumeurs qui organisent la profession. Et puis petit à petit, au fil du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, on voit se constituer une véritable industrie qui suit, là encore une fois, les transformations de toute l'industrie et qui suit aussi les transformations de la marchandisation des pratiques sociales. Mmh. Et ces pratiques sociales d'embellissement, progressivement, se constituent là aussi en un véritable marché. Et c'est quelque chose de tout à fait, enfin, passionnant que de suivre le fil de ces transformations pour aboutir à la fin du 19e siècle à un véritable secteur industriel et qui continue son évolution avec, mais là, Béatrice Collin vient de le rappeler, de véritables transformations à partir des années 1950 pour aboutir à la structuration d'un marché qui est international et désormais mondial.
Oui, au 19e siècle, les pratiques évoluent et Charles Baudelaire en est témoin. En 1863, le poète publie un éloge du maquillage. Écoutez. La femme est bien dans son droit, et même elle accomplit une espèce de devoir, en s'appliquant à paraître magique et surnaturelle. Il faut qu'elle étonne, qu'elle charme. Idole, elle doit se dorer pour être adorée. Elle doit donc emprunter à tous les arts les moyens de s'élever au-dessus de la nature, pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits. Il importe fort peu que la ruse et l'artifice soient connus de tous, si le succès en est certain et l'effet toujours irrésistible. Pour nous restreindre à ce que notre temps appelle vulgairement maquillage, qui ne voit que l'usage de la poudre de riz, si niaisement anathématisée par les philosophes Candide, a pour but et pour résultat de faire disparaître du teint toutes les taches que la nature y a outrageusement semées et de créer une unité abstraite dans le grain et la couleur de la peau, laquelle unité rapproche immédiatement l'être humain de la statue, c'est-à-dire d'un être divin et supérieur. La peinture du visage ne doit pas être employée dans le but vulgaire, inavouable, d'imiter la belle nature et de rivaliser avec la jeunesse. Qui oserait assigner à l'art la fonction stérile d'imiter la nature ? Le maquillage n'a pas à se cacher, à éviter de se laisser deviner. Il peut, au contraire, s'étaler, sinon avec affectation, au moins avec une espèce de candeur. Anne Dalmasso, au moment où Baudelaire revendique ainsi un droit à l'artificiel, on est encore dans une époque où le maquillage est discret et se veut justement une imitation de la nature.
Bon, il y a eu des transformations là, très très importantes hein, dans les pratiques du maquillage au sens large, avec des alternances de moments où au contraire le maquillage est extrêmement présent. Enfin, on connaît bien à la fin de la période d'Ancien Régime l'importance de l'usage du blanchiment de la peau, avec notamment la fameuse céruse qui a provoqué donc des ravages considérables hein, sur puisque c'est un produit qui est hautement toxique. Donc là où il s'agit au contraire de montrer qu'on est d'affirmer son statut social par la transformation de son apparence, puis ensuite au cours du 19e siècle une phase de retour à du naturel entre guillemets, donc avec le recours à une beauté qui soit une beauté qui en apparence en tout cas paraît moins directement liée à l'usage de produits, et puis des retours réguliers à des transformations qui sont plus importantes. Mais dans cet extrait de Baudelaire, ce que je trouve très très important, c'est enfin très intéressant, c'est que on retrouve déjà le poids de cette question des normes sociales par rapport à la transformation de l'apparence, et qui font là aussi des cosmétiques une bonne manière de suivre ces transformations. On y voit aussi apparaître les questions bon, qui parcourent toute l'histoire des pratiques liées aux cosmétiques, celui de la jeunesse, de la vieillesse, de ce que l'on masque, de ce que l'on révèle. Donc oui, c'est un très très bel extrait.
Au moment où Baudelaire écrit, dans les années 1860, c'est un moment où se crée, ou commence peut-être à se créer, cet imaginaire qui associe Paris aux cosmétiques et à la mode. Anne Dalmasso, c'est le tout début.
Oh non, c'est pas le début, hein, mais c'est le moment où cette association entre Paris, le luxe, ce qu'on appelait les articles de Paris, la mode et les cosmétiques, prend une dimension qui devient aussi une dimension industrielle. Et on voit apparaître donc des grandes marques, des grandes entreprises, les Coty, les Guerlain sont déjà présents, donc qui montrent cette nouvelle alliance d'une certaine manière entre cette image donc de la France liée au luxe et une forme d'exceptionnalité, et puis ce caractère beaucoup plus massif de l'industrie qui s'en est d'ores et déjà emparée, sachant qu'il y a également en parallèle toute une industrie qui est plus liée aux soins de la peau, la savonnerie déjà, l'industrie des crèmes qui sont plutôt liées aux soins, donc moins à la visibilité que ne le sont le maquillage stricto sensu. Et mais Béatrice Collin pourrait en parler là mieux que moi. On voit aussi apparaître les produits de traitement pour les cheveux, et notamment les produits de teinture.
Et oui, et c'est ce qui va permettre l'avènement de L'Oréal. On va en parler dans un instant, mais encore un mot sur cette industrialisation du secteur des cosmétiques à la fin du 19e siècle, ce moment où on passe d'une chimie artisanale à des procédés industriels. Qu'est-ce qui permet ce changement, Anne Dalmasso ? Ce sont des innovations techniques ?
Innovation technique sûrement, mais une nouvelle forme d'alliance entre une forme de scientificité qui vient de la chimie, qui vient aussi pour partie de la médecine, et des pratiques beaucoup plus anciennes. Peut-être aussi des formes de structuration territoriale qu'on voit s'affirmer dès la fin du 19e siècle, avec bien sûr leur Paris, le centre de l'industrie du luxe et du demi-luxe, et puis le centre de consommation très important, des transformations à Grasse aussi, qui est historiquement liée à la parfumerie, mais qui là aussi passe d'un secteur artisanal à un secteur proprement industriel, avec de très grosses usines. On verra un peu plus tard le passage aussi des produits naturels aux produits de synthèse, aussi bien dans la parfumerie que dans la savonnerie, ne serait-ce que la savonnerie marseillaise également. Donc à la fois des transformations dans les manières de produire et des transformations dans les manières de vendre et de promouvoir et peut-être même de concevoir ces cosmétiques dans ce lien qui s'affirme avec la scientificité ou le recours à la science pour concevoir des produits qui se veulent efficaces.
Béatrice Collin, sur ces grandes transformations au tournant des 19e et 20e siècles.
Oui, alors je rejoins complètement Anne Dalmasso parce qu'effectivement, ce qui va caractériser l'industrie des cosmétiques françaises encore aujourd'hui, en fait, c'est vraiment ce cercle vertueux qui va s'établir entre l'image de la France, donc évidemment symbolisée avec la haute couture, avec la mode, avec peut-être cette image d'Épinal, mais toujours réelle du chic parisien, et en fait, cette scientificité. Et c'est ça qui va être vraiment important. Bon, on se retrouve fin 19e, début 20e, c'est l'essor de la chimie, c'est l'essor de la médecine. Et ce que vont savoir faire les entreprises cosmétiques françaises, c'est justement, en fait, lier les deux. Et lier à la fois ce goût du glamour, d'une image, et en même temps avoir un niveau de scientificité très élevé. Et c'est d'ailleurs à ce propos-là, enfin, je trouve ça peut nous paraître totalement hallucinant aujourd'hui, mais le premier nom de l'entreprise L'Oréal, c'était la Société Française pour les teintures inoffensives de cheveux. Donc en fait, là aussi, hein, on a vraiment cette évolution qui va se faire.
France Culture.
Il n'y a que mes mains qui peuvent trahir mon âge. J'ai ça de ma mère, elle avait des mains couleur girafe.
Entendez-vous l'écho?
Vous allez garder ça 2 heures, puis vous rincez avec de l'eau tiède. Et ensuite, vous masserez doucement avec la crème anti-tache. Et la semaine prochaine, on le fait qu'une seule fois. Hein. Autrement, vous n'aurez plus de peau.
Quand j'aurai plus de peau, j'aurai plus de tache.
Tiphaine de Roquigny.
Nous parlons de l'économie des cosmétiques avec Béatrice Collin et Anne Dalmasso. Alors c'est dans ce contexte d'industrialisation que l'entreprise qui deviendra L'Oréal est créée en 1909. Qui est son fondateur, Béatrice Collin, et pourquoi se lance-t-il dans ce projet, vous l'avez dit, cette société française des teintures inoffensives pour cheveux?
Alors son créateur c'est Eugène Schueller. Alors donc quand je disais scientificité, en fait Eugène Schueller est un chimiste. Donc c'est ça, et donc un chercheur en chimie.
Donc c'est même major de l'école de chimie appliquée de Paris en 1904.
Voilà. Donc ça va vraiment marquer, hein. Donc ça c'est vraiment important, c'est vraiment au cœur de l'identité de L'Oréal. Et donc il va développer donc une teinture pour cheveux et qui va vendre, et Anne Dalmasso le soulignait aussi, c'est-à-dire on va aussi avoir une évolution de la commercialisation des produits. Et donc en fait lui il va aller le vendre auprès des coiffeurs, hein, qui étaient évidemment les prescripteurs et aussi les revendeurs, hein, ce qui est toujours le cas de ces produits, les utilisateurs de ces produits capillaires.
Inoffensifs parce qu'à ce moment-là, beaucoup de produits de beauté étaient toxiques. Et oui.
Bon, on parlait de la céruse, mais c'est un exemple parmi d'autres, et notamment sur les teintures pour cheveux, effectivement, entre les brûlures, les problèmes sur le cuir chevelu, etc. C'était
parce qu'on utilisait du plomb, du sulfure d'arsenic, des sels de zinc. Tout cela était toxique et ça pouvait même être mortel.
Ah oui, complètement. Il y a vraiment eu des cas de décès, hein, liés à l'usage des teintures pour cheveux. Et c'était aussi le cas aussi d'un certain nombre à l'époque de crèmes et de cosmétiques.
Et c'est pour cela que l'invention de Eugène Schueller est une petite révolution. D'où vient ce nom, L'Oréal, Béatrice Collin?
L'Oréal, en fait, ça vient de l'auréole, en fait, qui était la coiffure à la mode à l'époque de la création de l'entreprise. Et il s'agissait, en fait, de pouvoir teindre l'ensemble des cheveux. Et donc, cette fameuse auréole qu'on se faisait dans la coiffure de l'époque. Voilà.
Et la clientèle répond à l'appel, répond tout de suite quand cette nouvelle offre apparaît, Béatrice Collin?
Alors, en fait, la clientèle, ça va d'abord et avant tout la clientèle des coiffeurs. Hein, donc en fait, les produits sont vraiment commercialisés au démarrage. L'entrée dans la grande consommation va être beaucoup plus tardive pour les produits de L'Oréal. Donc c'est vraiment les coiffeurs qui vont utiliser les teintures et qui vont aussi évidemment être prescripteurs par la suite d'un certain nombre de produits capillaires.
En ce début du XXe siècle, il y a L'Oréal bien sûr, mais ce n'est pas la seule entreprise hein, sur le marché de la beauté, Anne Dalmasso.
Oui, bien sûr. Hein, L'Oréal émerge petit à petit comme l'espèce de vaisseau amiral hein, de l'ensemble de ce secteur. Mais on a d'une part un grand nombre d'entreprises qui restent très liées au monde des parfums et qui continuent à avoir une double activité à la fois de parfums et de produits cosmétiques. Et puis on voit apparaître aussi toute une série d'entreprises qui commercialisent pas forcément sous leur propre marque. On va en retrouver par exemple dans la région lyonnaise, Gate Fossé par exemple, qui sont des entreprises qui sont plus liées à la chimie cette fois-ci et qui fabriquent des produits qui sont à la fois des produits pour les cosmétiques, parfois des produits également pour la pharmacie. Mais on sait que des gros poids lourds de la chimie comme Rhône-Poulenc par exemple ont pu avoir une partie d'activité industrielle donc liée à de la production également et qui montre déjà ce qui va faire peut-être la force, on l'évoquait en débutant, hein, du secteur en France, c'est-à-dire à la fois cette très grande visibilité d'un petit nombre de marques et un tissu industriel qui peut être, lui, totalement inconnu du grand public et qui est plus ou moins spécialisé, mais qui fournit la base même de la production industrielle.
Et justement, comment L'Oréal entre-t-il dans la grande consommation, Béatrice Collin ?
En fait, L'Oréal va rentrer dans la grande consommation, puis c'est intéressant parce qu'on voit justement, comme le disait Anne Dalmasso, cette homothétie entre les évolutions sociales et l'industrie de la cosmétique, puisqu'en fait, ils vont rentrer dans la grande consommation avec Ambre Solaire, donc l'huile solaire qu'on connaît.
Au moment des congés payés,
voilà. Donc, on a vraiment ce système qui se met en place. Et puis il va y avoir aussi l'entrée, je dirais, avec mon savon. Donc là aussi, parce que c'est le développement de l'hygiène aussi, hein, donc qui va se faire à partir de ce moment-là. Donc c'est à partir de ce moment-là que L'Oréal va rentrer dans la grande consommation. Mais son entrée dans la grande consommation, on va dire réellement, ça va être plutôt après la guerre, dans les années 50.
Le temps n'est plus où la coiffure s'improvisait dans un salon de quartier. Elle possède aujourd'hui ses usines, ses laboratoires, tels à Aulnay-sous-Bois, près de Paris, les plus grands laboratoires capillaires d'Europe. C'est là que journalistes et spécialistes de la beauté féminine sont venus assister à la première de modeling, nouvelle technique de la coiffure qu'Alexandre et Jacques Desange mettent aujourd'hui en pratique. On ignore sans doute que l'histoire de la coiffure moderne ne date que de 1882, avec l'apparition de l'ondulation. L'indéfrisable ne date que du début de ce siècle. Et l'on en était encore aujourd'hui à hésiter entre la permanente, durable, et la mise en plis sans permanente, mais éphémère. Désormais, les coiffures souples et naturelles dureront plus longtemps, et chaque femme saura se recoiffer avec la plus grande facilité. Modeling, une nouveauté qui prend dans le domaine de la mode une allure de révolution.
Voilà une archive de 1961. Pourquoi les cosmétiques se vendent-ils si bien au lendemain de la guerre? Parce qu'ils répondent, comme commençait à le dire Béatrice Collin, à une demande d'hygiène, mais aussi de soins de plus en plus importante, Anne Dalmasso.
Oui, enfin les soucis d'hygiène sont anciens, hein, au moins depuis le 19e siècle. Mais c'est vrai que après la Seconde Guerre mondiale, les cosmétiques accompagnent toute l'explosion de cette société de consommation, avec également la diffusion du prêt-à-porter, avec l'augmentation du pouvoir d'achat qui permet de dégager une partie des revenus pour à la fois s'occuper de soi, ça c'est plutôt le volet soins et les cosmétiques, disons, à base de crème, savon, etc. Et puis de construire cette forme d'autonomisation paradoxale, hein, où il s'agit à la fois d'être complètement soi-même en étant complètement dans la mode, et qui va diffuser la pratique, cette fois-ci, du maquillage, avec une diffusion des pratiques qui est là bien connue, hein, depuis les catégories aisées vers les catégories populaires, et à l'intérieur desquelles on va retrouver
retrouver, ce qui est une spécificité aussi du secteur, hein, tout ce domaine des salons de beauté qui a joué un rôle très très important, hein, depuis au moins la période de l'entre-deux-guerres dans la diffusion de ces pratiques.
Oui, les salons de beauté, ce qui nous amène à la question de la distribution, parce que il y aura plus tard la grande distribution, mais ce qu'il faut dire avant cela, c'est que ce sont les pharmacies qui longtemps ont joué un rôle important dans la diffusion de ces produits cosmétiques, et cela tout au long du XXe siècle, Anne Dalmasso.
Oui, et depuis le XIXe siècle. Hein, les pharmaciens au XIXe siècle se construisent sur un savoir-faire de fabrication de produits, alors des produits thérapeutiques, mais aussi des produits qui relève du soin et des cosmétiques, avec d'ailleurs des bagarres assez féroces, hein, sur ces questions de définition entre les différents parcours. Et le passage à ce qu'on appelle aujourd'hui donc la pharmacie a été, du point de vue des pharmaciens, là, un élément très très important. Progressivement, les pharmaciens perdent leur activité de fabrication propre. Ils deviennent les spécialistes de la vente la vente des médicaments, sur ordonnance ou pas, et puis de la vente également des cosmétiques, dont ils vont essayer de se réserver d'ailleurs une partie de la distribution à un moment donné, ce qu'ils ne vont pas réussir à faire. Mais on retrouve là, avec le lien avec la pharmacie, ce qu'évoquait Béatrice Collin tout à l'heure, hein, c'est ce lien avec la scientificité du produit, qui rejaillit dans les autres domaines, notamment la grande distribution. Mais pour revenir à cette question-là des salons de beauté, c'est vrai que en parallèle des coiffeurs qu'on évoquait là pour la question de la teinturerie, les salons de beauté vont être aussi un des vecteurs de diffusion, alors de produits et de pratiques également. Et on a là, enfin, des histoires qui sont quand même assez extraordinaires, hein, de femmes comme Nadia Payot, Elena Rubinstein, qui sont à la fois de vrais parcours d'entrepreneuses.
Oui, vous avez raison de les citer.
Des entreprises.
Vous avez raison de les citer, Anne Dalmasso, parce que c'est ça qui est intéressant avec ce secteur des cosmétiques, c'est que les femmes occupent une place centrale à la fois comme clientes et comme entrepreneuses.
Oui, comme entrepreneuse, ce qui est en fait pas tout à fait spécifique aux cosmétiques, mais ce qui est peut-être un peu plus spécifique, c'est que là, on a effectivement des noms, et des noms qui sont devenus des noms de marques, hein, que l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, et avec des femmes qui, alors, à des niveaux, celles-ci, la plupart, on ne connaît pas leur nom, de celles qui ont monté leur salon de beauté dans leur ville, avec les marchés qui sont évidemment des marchés relativement limités, mais qui jouent un rôle aussi dans les sociabilités féminines, hein, dont on sait combien ils sont importants. Et puis quelques-unes qui ont constitué de véritables entreprises, certaines internationales, comme Elena Rubinstein, comme Estée Lauder aussi. Ce qui est un bel exemple, là, quand même, de la possibilité d'une mise en visibilité de ces parcours d'entrepreneuses.
Béatrice Collin, sur la place des entrepreneuses dans ce secteur des cosmétiques.
Ah oui, c'est vraiment très, très important. Alors, effectivement, on a Elena Rubinstein, on a Estée Lauder. Estée Lauder, c'est quand même une des très grandes entreprises du secteur à l'heure actuelle, hein. Donc ça c'est important. On a aussi, et c'est aussi intéressant, le rôle que justement les femmes vont jouer pour, comme le disait Anne Dalmasso, en fait, faire évoluer les pratiques, en fait, construire les pratiques. Et vous avez une marque, alors bon, qu'on a peut-être un peu oublié maintenant, mais qui était avant, et qui, où là, en fait, c'était vraiment de la vente à domicile, et donc on expliquait aux femmes comment utiliser les différents produits, etc. Donc il y a vraiment ça. C'est important. Et donc, il y a le côté salon de beauté qui a fait vraiment un développement important pour la pratique, pour l'appropriation, en fait, de ces produits. Il y a aussi ces boutiques, en fait, dont on peut en retrouver encore quelques-unes dans Paris, des parfumeries. Hein. Donc ça, les parfumeries, c'était aussi des lieux de vente, alors pour le parfum, mais qui étaient des lieux de vente important, où en fait on retrouvait les odeurs en fait qu'il y avait dans les différents parfums. Donc ça a joué aussi un rôle important.
Et la distribution dépend de la gamme des produits, puisque tout au long du XXe siècle et aujourd'hui encore dans ce secteur, il y a d'une part du haut de gamme et puis de l'autre une production en quantité industrielle, Béatrice Collin.
Ah oui, complètement. Et là, c'est vraiment, enfin, et en plus, c'est vraiment très séparé, hein. C'est-à-dire, on a vraiment d'un côté les produits de luxe et de l'autre côté les produits de grande consommation, et il n'y a pas du tout d'échange entre les deux, avec à chaque fois des marques très spécifiques pour chacun de ces segments.
On va continuer à parler de ce marché des cosmétiques. On va voir notamment comment L'Oréal a réussi à s'imposer sur les marchés mondiaux juste après ça.
Rouge à lèvres, crayon et cils noirs. J'ai mis mon satin clair, legging et cuir noir.
Maquillage, une chanson de Corinne sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Cosmétique parce que la filière française le vaut bien, c'est notre sujet aujourd'hui. Anne Dalmasso et Béatrice Collin sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch avec l'aide d'Inès Barja et mise en onde par Ludovic Auger. Comment L'Oréal, leader mondial du secteur des cosmétiques, est-il ainsi devenu, est-il ainsi atteint la plus haute marche du podium ? En 1960, l'international représentait 3% de son chiffre d'affaires. En 1984, c'est 60%. Donc l'entreprise a réussi son internationalisation en une vingtaine d'années, Béatrice Collin.
Oui, ça a été vraiment quelque chose de sidérant au niveau du groupe L'Oréal, et ça a été vraiment donné cette impulsion de conquête en fait hein, sur les marchés internationaux, qui s'explique par cette culture très entrepreneuriale de L'Oréal, où en fait, ils se sont dit, on va oser, allez, on y va, et donc en fait, ils ont envoyé des équipes qui ont commencé à tester des produits sur le marché, etc. Donc en fait, ça s'est fait comme ça, et donc en fait, ils ont un certain culot, quelque part, hein, donc de se lancer comme ça, mais avec aussi la conviction qu'ils avaient des produits de qualité. Et que donc, en fait, grâce à ces produits, ils allaient pouvoir rentrer sur les marchés.
L'Oréal s'est d'abord lancé à la conquête des États-Unis. Écoutez ce que déclarait le directeur d'une usine américaine de l'entreprise en 1970.
Nous sommes, si vous le voulez bien, pour nos sociétés, un corps franc sur le territoire de l'ennemi. Nous avons toujours empêché les Américains de pénétrer dans notre métier dans la spécification des cosmétiques pour cheveux. Ils n'ont pas réussi. Mais quand nous sommes venus ici, on nous a fait tous les coups possibles et imaginables. Nous n'avons pas les moyens de lutter contre la fortune américaine en envoyant des millions de dollars. Donc il faut qu'on ait les produits qui soient meilleurs que les produits américains et, au lieu d'avoir de l'argent, des astuces et de l'imagination qui nous permettent de triompher sans avoir l'argent. Quand on est en Amérique, il faut penser américain, il faut s'adapter. Si on ne s'adapte pas à leur méthode, on est fichu. Et on rembarque, comme d'ailleurs beaucoup d'industries françaises ont dû le faire. C'est une réussite parce que nous n'avons pas échoué. Mais nous n'avons pas encore réussi au sens où je voudrais qu'on réussisse. Nous sommes seconds dans certains de nos produits. Nous arriverons à être premiers.
Béatrice Collin, comment L'Oréal a-t-il réussi justement à s'adapter aux méthodes américaines selon les propos de ce directeur d'usine ?
Alors, je crois que L'Oréal s'adaptait aux méthodes américaines, mais en même temps a toujours joué aussi sa propre partition, et notamment parce que on parlait des produits de qualité, et donc en fait L'Oréal est arrivé par exemple avec des produits de teinture pour cheveux qui étaient évidemment à des prix plus élevés que les produits qu'on trouvait traditionnellement dans les drugstores américains, hein, donc forme de distribution que L'Oréal va découvrir aussi d'ailleurs à ce moment-là. Et donc en fait on leur prédisait enfin un échec à cause des prix élevés, et c'est là où il y a eu le fameux slogan, donc celui qu'on utilise encore, hein, parce que vous le valez bien. Et donc en fait ils ont réussi comme ça à se positionner sur le premium, et donc en fait ça a toujours été leur recherche de positionnement sur leur premium, et ça je trouve que ça a été vraiment une de leurs réussites.
L'Oréal s'est également renforcé à coup d'acquisition, en particulier lorsque François Dalle a pris le relais de Jeanne Schueller. Béatrice Collin.
Oui, alors L'Oréal a développé énormément d'acquisitions, et L'Oréal développe toujours énormément d'acquisitions. Enfin bon, c'est un mode de développement pour eux, hein, sur le plan stratégique. Donc ils ont acquis un certain nombre d'entreprises aux États-Unis, et notamment dans la grande conso, enfin la marque qu'on connaît peut-être le plus en France, c'est Maybelline New York.
Et justement, Maybelline, c'est intéressant puisque avec cette marque, L'Oréal joue sur l'imaginaire new-yorkais, là où d'autres marques se fondent sur un imaginaire parisien dont on a déjà parlé, associé au luxe, à la mode, à la haute couture, Béatrice Collin.
Oui, mais je crois aussi c'est ça un petit peu le savoir-faire de l'entreprise, c'est qu'en fait chaque marque va pouvoir se définir et avoir sa propre identité. L'Oréal c'est 30 à 40 marques mondiales, hein, donc en fait évidemment qui représentent l'ensemble des continents et qui ont leur identité de par leur appartenance à ce continent. Et c'est vrai que Maybelline New York, en fait l'idée c'était pas forcément non plus de séduire que les Américaines, mais c'est quelque chose qui est très très fort par exemple sur le marché asiatique.
Sur cette image de marque associée au luxe et à la mode à la française, Anne Dalmasso, c'est quelque chose sur lequel la cosmétique française continue à capitaliser?
Oui, mais pas uniquement. Si on regarde quelles sont les autres marques ou les autres entreprises qui se sont développées après la Seconde Guerre mondiale, on a d'autres positionnements. Parce que comme le disait bien Béatrice Collin, à partir du moment où L'Oréal se positionne sur le marché effectivement premium, il faut trouver d'autres moyens de se construire un marché. Si on pense par exemple à Yves Rocher, fondé en 1959, dans le Morbihan, et avec une image qui est centrée sur des produits à base de plantes, donc avec une image qui est une image différente, qui est pas tout à fait celle du bio telle qu'on la trouvera plus tard, mais qui est liée à la nature et également à d'autres, enfin des modes de diffusion particuliers, notamment la vente par correspondance, donc avant que Yves Rocher développe également donc des boutiques, et puis avec un ancrage territorial très fort donc dans en Bretagne. On a des segments comme ça différents. Si on pense, alors là, on fait un saut dans le temps, mais à l'Occitane, là. Donc pour des périodes plus récentes, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait sur le créneau du luxe, même si on est sur des formes d'ancrage au territoire qui sont spécifiques. Et on pourrait parler aussi des cosmétiques thermaux, qui joue encore sur une autre, un autre, à la fois d'autres réalités et un autre imaginaire par rapport aux cosmétiques. C'est probablement ce qui a permis ce dynamisme, c'est aussi cette capacité à élargir les marchés, à recréer en permanence des marchés sur des segments qui sont des segments différents.
Oui, c'est intéressant que vous citiez l'Occitane, c'est une marque qui est plébiscitée notamment par les consommateurs japonais.
Moi j'adore l'Occitane et comme c'est l'ouverture, je voulais vraiment être là.
Je ne fais pas souvent la queue, mais là j'étais super intéressée.
C'est ma fille qui m'a dit de venir. Il y a des produits qu'elle aime bien, alors je suis venue les acheter pour elle.
Pour les Japonais, ce magasin c'est l'image même de la Provence. Des couleurs chaudes, une atmosphère agréable, des senteurs sympathiques. Pour nous, c'est ça la Provence.
Voilà des propos recueillis lors de l'ouverture d'une boutique L'Occitane en Provence au Japon, extrait d'un documentaire d'Anne Deloisy de 2016, L'Occitane, le jackpot du Made in Provence. Que traduit, selon vous, cette réussite de L'Occitane, Béatrice Collin?
Alors bon, déjà, je crois que l'Occitane, il y avait cet aspect produit naturel qui a extrêmement bien fonctionné. Il y avait aussi cette image de la Provence, hein, donc qui était vraiment quelque chose qui était vraiment clé. Et donc c'est une réussite en fait qui est absolument incroyable, hein, la réussite de l'Occitane en Provence. Faut imaginer qu'il y a une crème pour les mains qui est un peu le produit vedette de l'Occitane, crème de les mains vendue toutes les 3 secondes dans le monde. Donc c'est vraiment cette réussite et cet ancrage territorial et c'est important. Et comme le disait Anne, en fait, l'ancrage territorial est aussi très important pour ces marques. On a l'Occitane en Provence, on a Caudalie, on a effectivement les marques liées à des stations thermales. Et c'est vrai que le mot Provence, en fait, ça sonne à travers le monde.
On a entendu le succès de l'Occitane au Japon. On peut dire plus largement que le marché asiatique est particulièrement porteur aujourd'hui pour le secteur des cosmétiques, Béatrice Collin.
Alors, le marché asiatique est structurellement porteur, même si conjoncturellement, il y a eu un petit peu de baisse.
En ce moment, il y a le ralentissement chinois, oui. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas compensé par le succès de ces produits en Corée du Sud?
Alors, en fait, C'est un peu une ambivalence avec la Corée du Sud, puisqu'en fait, on a aussi l'émergence de la beauté coréenne, hein, de la K-beauty, en fait, qui est aussi qu'on va retrouver sur les marchés occidentaux. Alors bien sûr, hein, c'est toujours un marché qui est en forte croissance, ce marché asiatique, et c'est un marché qui va encore reprendre évidemment de la croissance. C'est juste un petit creux, mais effectivement, le marché asiatique est un marché absolument important.
Ce qui marche extrêmement bien, notamment en Chine, c'est le rouge à lèvres. C'est ce qu'on a observé ces dernières années, Béatrice Collin.
Oui, c'est le rouge à lèvres. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, par exemple, que Hermès, qui pour l'instant n'était jamais allé sur les cosmétiques, hein, donc était resté vraiment sur la parfumerie, en fait, a lancé le rouge Hermès sur l'ensemble des marchés mondiaux.
Le secteur des cosmétiques français, la filière française, investit tous les continents et c'est le cas notamment de L'Oréal qui a lancé des gammes de produits spécifiquement pour les pays émergents, Béatrice Collin.
Ah oui, vous avez quand même, alors vous avez à la fois des marques qui vont s'adresser spécifiquement à certains marchés, hein, puisqu'en fait, L'Oréal, c'est 400 marques au total. Donc, vous avez quand même des marques qui sont très spécialisées sur certains marchés. Et dans les grandes marques mondiales, vous avez aussi des gammes qui vont être plus spécifiquement dédiées à certains types de marchés.
Qu'est-ce qui fait la stabilité de L'Oréal, sa capacité à innover? On en parlera. Est-ce que il faut lier cela, cette réussite, à son actionnariat familial, Béatrice Collin?
Ah, très clairement. Très clairement. Donc ça, je crois que c'est important. C'est ce qui a toujours donné à L'Oréal cette capacité, enfin, de s'inscrire dans le long terme. Mais en fait, dans le secteur de la cosmétologie, en fait, L'Oréal n'est pas la seule entreprise familiale. Vous avez beaucoup d'entreprises familiales dans le secteur de la cosmétologie. Et c'est sûrement aussi, je pense, une des clés de réussite de l'ensemble de l'industrie.
Lesquelles, par exemple?
Ben, par exemple, alors, on a Clarins, on a Caudalie, bon, on a les grandes, enfin, évidemment, on a LVMH, on a Kering. Donc, en fait, toutes ces marques-là sont quand même toutes ces entreprises, pardon, sont des entreprises qui sont à actionnariat familial. Et ça permet effectivement de passer beaucoup d'aspects conjoncturels pour pouvoir être dans une projection beaucoup plus à long terme, qui est nécessaire, hein.
Et alors, comment, justement, L'Oréal réussit-elle à s'imposer sur les marchés en pleine croissance, que sont, pour les citer par exemple, alors il y a le marché africain aujourd'hui qui est assez nouveau, avec cette classe moyenne qui de plus en plus achète des produits de beauté, et puis le marché brésilien aussi qui compte énormément aujourd'hui, Béatrice Collin.
Oui, alors sur le marché brésilien, L'Oréal est présente depuis très longtemps, hein, sur le marché brésilien. Mais ce qui est important à voir aussi, c'est que effectivement, en fait, vous allez avoir différents types de peaux sur l'ensemble de ces marchés. Et donc, en fait, ce qu'a fait aussi L'Oréal a par exemple beaucoup appris sur les peaux métisses, paradoxalement, sur le marché nord-américain. Hein, donc, puisque c'est là aussi où il y avait à la fois des entreprises qui étaient très en pointe sur le sujet. Et donc, en fait, aussi, ce savoir-faire, en fait, il a pu évidemment le mettre en valeur au Brésil, mais aussi le mettre en valeur en Afrique. Et effectivement, c'est cette zone de Afrique, etc., c'est vraiment une zone, c'est nouveau pays émergent, c'est vraiment une zone, enfin, c'est la nouvelle terre promise à la cosmétique.
Sur cette capacité de la filière cosmétique française à s'adapter à de nouveaux marchés, Anne Dalmasso, peut-être qu'on peut citer aussi l'Occitane au Brésil, qui a cherché à répondre ainsi à une demande spécifique brésilienne, Anne Dalmasso.
Oui, ben cette adaptation à la diversité des peaux est quelque chose qui est fondamental. Enfin, dans le programme dans lequel j'ai un tout petit peu travaillé là sur ces questions de cosmétiques, c'est un programme qui est interdisciplinaire et dans lequel on va retrouver des chimistes, des dermatologues, aux côtés de d'autres collègues en sciences humaines et sociales. Et cette question de l'adaptation à la peau, elle a à la fois un volet social. Faut-il blanchir? Faut-il au contraire foncer la peau? Et avec quels produits et avec quelles incidences sur la peau? Dans un de vos extraits tout à l'heure, là, vous évoquiez la dangerosité d'un certain nombre de produits. La question de la nocuité ou de l'innocuité de ces produits se repose aussi avec cette diversification donc des usages en fonction des différents types de peau.
Et vous avez parlé de l'émergence d'une concurrence coréenne dans ce secteur des cosmétiques. Béatrice Collin, comment expliquer cette émergence? Il y a une importance particulièrement forte en Corée du Sud aujourd'hui de l'apparence?
Ah oui, complètement. Et ça c'est un phénomène qui est très important. Alors bon, on a évidemment, je veux dire, on a des phénomènes de mode dans le secteur des cosmétiques. Par définition, c'est un secteur qui est sensible à la mode. Et donc, oui, l'émergence, en fait, c'est d'abord un extrême soin de la peau. En fait, c'est une routine au niveau des soins qui est extrêmement importante, donc qui est là. Et c'est aussi, en fait, une très forte routine de maquillage. Et donc, ces soins, enfin, de K-beauty, en fait, se développent à tel point, d'ailleurs, que L'Oréal a racheté il y a un an ou deux une entreprise de beauté coréenne.
Et comment L'Oréal et les autres entreprises de cosmétiques répondent-ils aux critiques qui consistent à dire que c'est une industrie qui joue sur l'insécurité des femmes et qui finalement crée des complexes pour mieux y répondre ?
Non, je crois que d'abord, bon, enfin, Anne Dalmasso le disait, enfin, la beauté est une quête éternelle, hein, donc, et dans toutes les civilisations. Et effectivement, en fait, je crois qu'au contraire, enfin, c'est aussi ces entreprises qui permettent aux femmes d'acquérir de la confiance, enfin, de se sentir bien, de se refléter aussi dans leur réalité.
Est-ce que vous vous maquillez?
Oui, oui.
J'aime me maquiller.
Oui, on se maquille, ça donne une personnalité et ça fait égayer le visage, je trouve.
Oui. Et pour plaire aussi, pour plaire autant à soi-même qu'aux autres.
France Culture.
Et où achetez-vous vos produits?
Bah, parfois sur des conseils d'une vendeuse.
Au début, effectivement, nous étions conseillés, mais maintenant, nous sommes habitués, nous choisissons, nous savons choisir maintenant nos produits.
Tiffaine de Roquigny.
Quelles sont aujourd'hui les grandes tendances qui tirent ce marché des cosmétiques? Il faut évoquer la dermo-cosmétique qui allie beauté et soins. C'est aujourd'hui l'un des segments de marché qui fonctionne le mieux, Béatrice Collin?
Ah oui, c'est un segment de marché qui a augmenté énormément. Enfin, par exemple, L'Oréal, ses ventes en dermo-cosmétique, elles ont augmenté de plus de 20%, 25 ou 30%. Enfin, bon, donc c'est un secteur qui est vraiment extrêmement important. En fait, c'est cette recherche aussi de naturel, de sécurité, de santé, de bien-être, en fait. On veut aussi, pas simplement, enfin, c'est pas une simple recherche esthétique. C'est aussi paraître en bonne santé et en même temps utiliser des produits dont, qui sont également des soins, puisque comme vous disiez, c'est bien, on est vraiment, je veux dire, à la croisée entre le soin, la cosmétique et la médecine. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de produits dermocosmétiques, en fait, qui sont des produits de prescription en Amérique du Nord ou au Brésil.
La dermocosmétique qui s'inscrit dans cette tradition de distribution de produits de beauté par les pharmacies, Anne Dalmasso?
Oui, mais pas seulement. Comme l'évoquait Béatrice Collin, une partie des cosmétiques, ceux qu'on classe, en tout cas en Europe, là, sous le terme de dermocosmétiques, sont vraiment à la frange entre le soin au sens de prendre soin d'eux et le soin au sens curatif. Alors, on sait très bien que la réglementation européenne sépare clairement les deux domaines, mais dans les pratiques, effectivement, le cosmétique peut à la fois servir à améliorer l'apparence de la peau, assouplir la peau, mais être aussi un produit de cicatrisation. Et là, on rentre dans un domaine qui est plus proche du soin et de la santé. Si on va un peu au-delà, on évoquait le thermalisme tout à l'heure, la question de savoir ce qui permet le retour à la bonne santé va bien au-delà des produits médicamenteux qui peuvent être consommer. Et c'est vrai qu'on a là tout un secteur autour de marques comme Bioderma par exemple, hein, qui ont justement essayé de s'inscrire dans cette interface entre ces deux types de soins, prendre soin de soi et rentrer dans des démarches qui sont des démarches en partie curatives.
C'est aussi Avène qui appartient au groupe pharmaceutique Pierre Fabre. Voilà. Alors il y a cette tendance de la dermocosmétique. Quelles sont les autres tendances qui tirent aujourd'hui le marché, Béatrice Collin?
Alors bon, évidemment, il y a toute la tendance autour du green, hein, du naturel, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, que ce soit en fait d'avoir des produits qui soient écologiquement et responsable, et qui donc ça c'est très important que ce soit dans les contenus, mais aussi quelque chose de très important dans ces produits-là, c'est dans les emballages. Hein, donc
c'est ce qu'on appelle la clean beauty.
Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'on appelle la clean beauty. Par exemple, en fait, il y a vraiment une recherche très importante pour diminuer les emballages, pour diminuer leur poids, pour évidemment qu'ils soient de plus en plus recyclables. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, et aussi évidemment d'avoir de sourcer des produits qui soient des produits bio et des produits en fait qui viennent vraiment aussi de production responsable pour des produits qu'on doit obtenir dans d'autres pays.
Ces entreprises, Anne Dalmasso, répondent de plus en plus à cette demande croissante d'écologie de la part des consommateurs ?
Oui, c'est effectivement incontournable. Avec, encore une fois, on le disait, hein, les cosmétiques accompagnent ou parfois un peu précèdent les évolutions de la société. Donc, le besoin de produits sécures, il est évidemment très ancien, mais le besoin de produits qui correspondent aux valeurs que les personnes veulent défendre et d'une certaine manière porter, correspond aussi à ces soucis-là. On peut y ajouter aussi le retour régulier là du do it yourself, donc de la fabrication donc des cosmétiques de manière artisanale ou carrément familiale. Mais derrière tout ça, il y a aussi tout un secteur qu'on a encore peu évoqué, qui est celui des façonniers, c'est-à-dire toutes ces entreprises qui correspondent aux besoins d'externalisation des grands groupes et qui sont aussi extrêmement imaginatifs là dans la fourniture de solutions qui correspondent aussi à ces évolutions de la demande. Pour en citer un, Fareva, c'est une entreprise créée dans les années 80 à Tournon en Ardèche et qui est aujourd'hui un leader mondial dans la sous-traitance. Donc on a vraiment des phénomènes là aussi qui probablement, dans la structuration même de la filière, expliquent cette capacité à s'adapter à l'évolution de la clientèle.
Avec 15% de part de marché, la France est le leader mondial des cosmétiques et elle a sa Cosmétique Vallée dans la Loire, près de Chartres, comme l'explique son directeur général Christophe Masson dans un reportage de France 3 de 2017.
C'est un territoire unique au monde, c'est un territoire qui rassemble toutes les compétences. Les grandes marques évidemment, mais plus de 80% de PME, ce sont des petites entreprises de 10, 20, 50 salariés qui ont chacun un savoir-faire unique en France, parfois unique au monde, dans le domaine des matières premières, dans le domaine des tests, du packaging. Et tout ça, ça fait un écosystème industriel qui est unique et qui vend l'image du Made in France dans le monde entier. La concurrence est féroce au niveau mondial, évidemment, parce qu'on est sur un marché énorme, 400 milliards d'euros, une croissance forte, 4-5% par an. Et évidemment, tous les pays du monde s'intéressent à ce marché en forte croissance. C'est le cas notamment en Asie du Sud-Est, où la Corée investit massivement. Et donc il faut faire face à ces pays qui investissent des milliards pour rattraper leur retard et essayer de nous doubler en tout cas sur l'innovation, sur les produits.
Que ce soit dans la Cosmétique Vallée ou dans les autres pôles français de ce secteur, le nerf de la guerre face à la concurrence féroce, c'est l'innovation, Béatrice Collin.
Ah oui, définitivement. Et d'ailleurs, c'est ça vraiment aussi qui a été à l'origine de la création de la Cosmétique Vallée. C'était vraiment de mettre ensemble les entreprises avec les laboratoires de recherche, avec les formations aussi qui pouvaient se faire. Aujourd'hui, vous avez une entreprise comme L'Oréal, en fait, qui consacre plus de 3% de son chiffre d'affaires à la recherche fondamentale, sur un chiffre d'affaires de 41 milliards. Ça n'a rien de négligeable, mais vous avez aussi, comme je disais, les entreprises françaises se sont toujours très positionnées sur l'innovation et sur la scientificité de leurs produits. Et on a vraiment un cercle vertueux qui s'est mis en place comme ça depuis énormément d'années. Donc le Cosmétique Vallée est un peu le symbole, puisque à l'origine, dans le centre de la France aujourd'hui, ça s'est étendu pour devenir un organisme national. Mais c'est vraiment cet écosystème qui est extrêmement puissant en France.
Sur l'importance de l'innovation pour ce secteur, Anne Dalmasso ?
C'est vrai que on le disait tout à l'heure, les cosmétiques, c'est un secteur qui est lié à la mode, qui est lié à l'apparence, donc qui doit être c'est structurel, en perpétuel renouvellement. Donc renouvellement à la fois des produits, renouvellement des images, renouvellement des formulations, la recherche et développement d'un côté, mais le marketing et la publicité de l'autre. Et c'est les deux pieds sur lesquels l'innovation avance, et ceci, je pense, depuis que les cosmétiques existent.
On arrive à la fin de cette discussion. Un mot de conclusion, peut-être, Béatrice Collin, sur les défis qui attendent aujourd'hui la filière cosmétique française.
Aujourd'hui, les défis, c'est vraiment d'avoir à la fois, en fait, ce qu'on appelle, bon, évidemment, cette clean beauty. Il y a aussi tout l'enjeu du digital, qui est absolument important. Aujourd'hui, c'est 25% des produits de cosméto qui sont distribués
en ligne.
Donc, c'est extrêmement important. Donc, vous avez beaucoup d'enjeux au travers de l'utilisation de l'IA, au travers de l'utilisation des data, etc. Donc, ça, c'est un vrai. Aujourd'hui, c'est un énorme enjeu pour l'industrie des cosmétiques.
Anne Dalmasso.
Oui, peut-être juste plaider sur l'intérêt qu'il y a à travailler sur les cosmétiques dans des dimensions qui soient les plus variées possibles depuis la sociologie, l'histoire, les sciences de la communication, les sciences de gestion ou tout ce que vous voulez. Enfin, c'est un domaine qui, une fois qu'on a passé la fausse image de superficialité, est vraiment une excellente clé d'entrée pour travailler sur les mécanismes économiques et sur les mécanismes sociaux.
Et vous nous avez bien montré tout au long de cette émission, l'une et l'autre, à quel point ce sujet était passionnant. Un immense merci à Béatrice Collin et Anne Dalmasso d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Béatrice Collin, avec Jean-François Delplanque, L'Oréal, la beauté de la stratégie chez Dunod. Et Anne Dalmasso, il y a cet article écrit avec Quentin Jagosinski, Acteurs et territoires, l'écosystème industriel des cosmétiques français au XXe siècle, paru dans la revue Entreprises et Histoire l'an dernier. Un grand merci à toutes les deux et un grand merci également à Simon Berthier de France Bleu Isère qui a assuré ce duplex. Catch me in your dreams, who I will know that you still think of me. Not enough for you to take me into your reality. I'd like to show you what it's like to be the man of the day. Shy or just selfish, I can't find the truth behind what you say. I got blinds in my mind, need you to come around, need you to tell me you're that it's all fake. Pardon the time, need you to come around, need you to tell me you're a mistake. Pull me in, breathe me in, tease me out of sight. I don't think I can ever do without. Pull me in, breathe me in, tease me out of sight. I don't think I can ever do without. Sheets of love and thoughts of lies, I let it go, but you're around. Paralyzed by my own mind, walk me out just one last time. I'd like to show you what it's like to be the man of the day. Shy or just selfish, I can't find the truth behind what you say. I got blinds in my mind, need you to come around, need you to tell me or that it's all fake. Pardon the time, need you to come around, need you to tell me oh, what a mistake. Pull me in, breathe me in, tease me out of sight. I don't think I can ever do without. Pull me in, breathe me in, tease me out of sight. I don't think I can ever do without. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est Blinds, une chanson de Nina Versip, extrait de son nouvel EP Paralyzed. Demain, comment le corps est-il devenu un capital à faire fructifier? Nous poserons la question à Guillaume Vallée et Jeanne-Maud Jarton. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.